Radio Kapi. Oh, Kapi.
Au sommaire de ce journal, lancement ce lundi à Kinshasa du Forum national des affaires coutumières par le président de la République. Objectif, renforcer l'autorité coutumière pour en faire un levier de stabilité, de sécurité et de développement à la base, selon le vice-premier ministre de l'Intérieur. En Ituri, le tribunal de paix de Mambasa n'a organisé aucun procès pénal depuis 2 ans et 6 mois, faute des juges. Des centaines de détenus restent en prison dans des conditions dénoncées par les défenseurs des droits humains. Focus sur la campagne agricole 2025-2026 au Maniema. Paul Kabingwa, directeur des ressources humaines au ministère de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, est notre invité pour faire le point sur la mission des suivis et d'évaluation. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le renforcement de l'autorité coutumière, gage de la stabilité, du développement, de la sécurité et de la cohésion des communautés en République démocratique du Congo, tel est le thème du Forum national des affaires coutumières lancé ce lundi, ici à Kinshasa, par le président de la République. Selon le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, ce forum vise à organiser et transformer les entités coutumières en véritables pôles de développement à la base. D'autres détails avec vous, Alain Rungomushinj.
Le chef de l'État est revenu sur l'agression dont la RDC est victime de la part de l'AFC M23 soutenue par le Rwanda. Il a fustigé l'opération menée par la rébellion qui consiste à remplacer les chefs traditionnels, Félix-Antoine Tshisekedi.
Parmi les méthodes utilisées par ces forces négatives figure une entreprise particulièrement pernicieuse, la tentative de substitution des chefs coutumiers légitimes par des individus imposés, étrangers aux traditions locales, pour mieux asseoir une logique d'occupation et de prédation.
De son côté, le vice-ministre des Affaires coutumières, autorité traditionnelle lui-même, a plaidé notamment pour l'implication du pouvoir coutumier dans la mise en œuvre du projet écologique Couloir Vert Kivu-Kinshasa. Jean-Baptiste Ndézé.
Pour que ce projet soit un succès, la capacitation des entités opérationnelles décentralisées représente le point clé.
Selon le vice-premier ministre de l'Intérieur, les participants suivront des sessions réparties dans plusieurs thématiques, notamment la décentralisation, le développement local, la gouvernance coutumière et sécuritaire.
Merci à vous, Alain Rungomushinj. Entre-temps, la coalition Amani Kouaoté, qui signifie paix pour tous, active dans la province du Sud Kivu, salue les sanctions imposées par les États-Unis d'Amérique à l'encontre des 4 officiers de l'armée rwandaise. Dans un communiqué signé par son modérateur, la coalition estime que cette décision constitue une reconnaissance internationale des souffrances vécues par les populations du Nord et du Sud Kivu. Jean-Chrysostome Kidjana appelle le gouvernement américain à aller au-delà de ces mesures symboliques et à maintenir une pression maximale jusqu'au retrait effectif des soldats rwandais du sol congolais. On l'écoute.
Nous saluons cette reconnaissance, mais nous aurions souhaité qu'il puisse demeurer dans une politique de tolérance zéro envers ce pays qui est en train de mettre à mal la stabilité en RDC pendant plus de 30 ans, mais également dans toute la sous-région des Grands Lacs. Aux États-Unis, à l'administration du président Donald Trump, de recourir à tous les moyens, y compris à des contraintes pour obliger les Rwandais de retirer toutes ses troupes de la République de moitié du Congo et de cesser tout soutien à des groupes insurrectionnels qui mettent à mal la stabilité, la paix, la quiétude dans toute la sous-région des Grands Lacs. Donc nous pensons que au-delà des sanctions, ça pose déjà des jalons pour que la justice internationale puisse sévir dès à présent contre tous ceux responsables qui ont été à la base de ces millions de morts, de ces millions de femmes, de nos enfants, de nos filles, de nos mères qui ont été violées, les violettants utilisés comme une arme de guerre.
Ces sanctions ciblées constituent un moyen de pression et de dissuasion que les États-Unis exercent à l'égard du Rwanda, qui refuse de respecter ses engagements signés à Washington en apportant son soutien à la rébellion de l'AFC M23, estime pour sa part Frédéric Amani, expert en relations internationales. Il souligne toutefois que ces sanctions à elles seules ne suffisent pas à ramener la paix dans l'Est de la RDC. On écoute Frédéric Amani, joint par Alain Rung.
les sanctions américaines à l'égard de certains officiers rwandais pourraient avoir des effets positifs sur la recherche de la paix dans la région du Grand Lac dans le cadre du processus de Washington par une bonne articulation des instruments diplomatiques combinant coercition et incitation. Par incitation, je fais allusion au dialogue. Il faudrait que la communauté internationale ou les partenaires des États de la région du Grand Lac arrive à réunir tous les États de la région autour d'un dialogue franc pour essayer de déceler le malentendu des revendications des uns contre les autres. Ensuite, les sanctions ciblées sont une bonne chose, un moyen de réprobation des États-Unis à l'égard du Rwanda. Mais il faut aussi admettre que seules les sanctions ne suffisent pas pour résoudre un conflit. Il faut, n'est-ce pas, associer d'autres efforts significatifs aux sanctions pour que la paix et la sécurité soient restaurées et que les civils ne continuent pas à mourir.
En réaction, le Rwanda regrette dans un communiqué ces sanctions américaines qu'il juge unilatérales, estimant qu'elles déforment l'effet du conflit dans l'est de la République démocratique du Congo et cible injustement une seule partie au processus de paix avant d'affirmer que les mesures prises par les États-Unis dénaturent la réalité de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Nous l'avons dit au sommaire, à Ituri, déjà 2 ans et 6 mois qu'aucun procès pénal n'a eu lieu au tribunal des paix de Mambasa. À la base, le manque des juges dans cette juridiction. Conséquence, des centaines de prévenus et détenus croupissent dans la prison centrale de ces territoires, située à 165 km au sud-ouest de Bounia. D'autres meurent sans connaître leur sort à la suite des conditions déplorables de détention. Les activistes locaux des droits de l'homme parlent des violations graves des droits humains et plaident pour l'organisation des chambres foraines et l'affectation des juges pour mettre fin à cette situation. Radio Kapi Bounia, Marcel Kizabiamongo.
Le tribunal de paix de Mambasa fonctionne avec un seul juge depuis plus de 2 ans dans une juridiction pourtant confrontée à des problèmes sécuritaires et des banditismes urbains. Faute de juges, ce tribunal n'est pas en mesure d'organiser des audiences en matière pénale. Selon des activistes locaux des droits de l'homme, cette situation est à la base de détentions prolongées et irrégulières des prévenus, cela en violation des droits reconnus à toute personne d'être jugée dans un délai raisonnable. Ces acteurs de la société civils se disent préoccupés par cette situation qui viole les droits humains et met gravement à danger la vie de plusieurs prévenus dans la prison centrale du Mambasa. Ils plaident pour une affectation rapide de juges dans cette juridiction et demandent à la MONUSCO d'appuyer l'organisation des chambres foraines à Mambasa Centre comme elle vient de le faire dans les territoires d'Aru. Jospin Paloukou, l'un d'eux.
Que le conseil supérieur de la magistrature puisse songer le plus vite possible à nous déployer quelques nouveaux juges pour accompagner le juge président qui est seul là-bas, afin que les procès en matière pénale soient organisés.
Nous n'avons pas encore la réaction du président de la Cour d'appel de l'Ituri à ce sujet. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Nous sommes dans la province du Maniema. Les élèves de l'école primaire Iyonga, située dans le village Musendo, territoire de Kailo, se retrouvent sans abri pour étudier. L'ouragan qui a frappé cette partie du Maniema le 25 février a causé d'importants dégâts matériels. Selon les responsables de l'établissement, la catastrophe a emporté les toitures et provoqué l'effondrement de plusieurs murs. Ils lancent un appel urgent aux autorités, aux élus et aux organisations humanitaires afin de sauver l'année scolaire. Florence Kizalunga nous en parle.
Une centaine d'élèves suivent désormais les cours à ciel ouvert à l'école primaire Iyonga dans les territoires de Kailo. Parents, enseignants et apprenants expriment leur inquiétude face à cette situation. Un appel à l'aide humanitaire est lancé aux bonnes volontés. Le message est relayé par Matala Saleh Samito, délégué des enseignants.
En date du 25 février, l'ouragan était passé là chez nous et notre école était tombée de toiture portée jusqu'au niveau de 20 mètres de l'école. Présentement, nous sommes avec les apprenants en pleurant. Il n'y a pas aucune place là où nous allons occuper les enfants. C'est pour cette raison que je suis venu à la radio pour montrer ou bien tendre notre main au niveau du chef de la province comme le gouverneur de nous aider et nos élus du territoire de Kailo. Ce sont leurs enfants, c'est qu'ils sont en souffrance en tout cas. Au total, nous avons 164 apprenants dans notre école, sans abri en tout cas.
En dehors de l'école, plusieurs ménages ont également été touchés par cette catastrophe naturelle. Israël et sollicite eux aussi une assistance. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Et au Nord Kivu, l'organisation Action pour la protection civile et le développement demande au programme national de lutte contre le VIH-SIDA ainsi qu'à d'autres partenaires nationaux et internationaux d'intensifier les actions de prévention et de réponse dans la lutte contre le VIH-SIDA dans les territoires des Rutshuru. Selon le rapport d'une enquête menée la semaine dernière dans les aires de santé des Kako, Kalengera, Rubare et Ruseke, les jeunes ne connaissent pas les mesures de prévention contre le VIH. Une situation qui inquiète d'autant plus qu'en 2025, cette organisation a répertorié près de 1000 cas de décès liés au VIH sur une période de 7 mois dans ces territoires. Pour le secrétaire exécutif de cette organisation, il faut agir et très vite. On écoute Innocent Touissabé au micro de Rosalie Zawadi.
Face à cette situation, nos recommandations sont claires. Renforcer le dépistage dans toutes les zones de santé avec campagne mobile et accessible aux populations. Garantir la continuité des traitements antirétroviraux en rétablissant et sécurisant les chaînes d'approvisionnement. Protéger les femmes et les filles contre les violences sexuelles en mettant en place des mécanismes de prévention et de prise en charge. Réactiver les aides humanitaires suspendues car elles sont vitales pour la survie des malades et la prévention des nouvelles infections. Coordonner les efforts entre l'État, les ONG et les partenaires internationaux en fait d'assurer une réponse intègre et durable.
Nous restons un instant au Nord Kivu. Le centre d'accompagnement psychosocial de Musimba, localité située entre la ville de Butembo et le territoire de Lubero, fait face à une pression croissante des malades. En février 2026, il a reçu plus de 100 patients souffrant de troubles mentaux, principalement des déplacés fuyant l'insécurité. Selon Jérôme Tamos, psychiatre et responsable du centre, l'infrastructure et les ressources financières sont largement insuffisantes pour répondre à cet afflux. Il appelle les humanitaires et le ministère congolais de la Santé à renforcer la prise en charge de ces populations vulnérables. Il est dit au téléphone de Martial Papimukeba.
Avec le problème de déplacement imposé par les sécurités dans notre milieu, et nous sommes en train d'enregistrer plus de déplacés justement sans aucune assistance. Parfois, d'autres qui viennent dans des institutions qui tentent de l'héberger, on les fait accompagner seulement par des lettres qui montrent qu'ils sont des déplacés, mais sur le droit justement financier, il y a encore des souffrances. Seulement, on ne sait pas justement comment ils peuvent s'acquitter de leurs frais de soins. Et c'est pourquoi nous avons toujours lancé des messages aux ONG, et peut-être via aussi notre service, le ministère de la Santé du gouvernement congolais. Il faut qu'on voit peut-être les mesures, comment épauler se déplacer, mais aussi lorsque nous avons des difficultés justement de les recevoir, beaucoup d'entre eux peuvent rester aussi dans la communauté sans soins et ça consiste aussi d'entière. Pour le moment, avant qu'on finisse même ce mois de février, nous avons pu recevoir plus de 100 malades et cet effectif énorme nous crée justement des inquiétudes par rapport aussi à notre capacité d'accueil, à la dotation des médicaments, autres besoins justement érigés par rapport aussi à leur prise en charge.
Par ailleurs, les opérateurs économiques de Cabinda se disent disposés à payer régulièrement leurs taxes et impôts, mais exigent des réalisations concrètes en retour. Cette position a été exprimée le week-end lors d'une réunion organisée par la Direction générale des recettes de la Lomami de Gerlo, antenne ville de Cabinda, sous la conduite de son chef d'antenne, David Kabumbula. Plus de détails dans cet élément de Ezaboto Yomboué de Radio Veritas Cabinda, rendu ici à Kinshasa par Élisée Chikota Chivueta.
Au centre des échanges figurait la sensibilisation au civisme fiscal et l'importance de la mobilisation des recettes provinciales. Les responsables de la régie ont rappelé que ces ressources constituent un levier essentiel pour financer les projets de développement et améliorer les services publics dans la province. Prenant la parole, le président de la Fédération des entreprises du Congo, ville de Cabinda, Jean-Bélé Kilama, a salué l'initiative. Il a affirmé que les opérateurs économiques sont prêts à remplir leurs obligations fiscales à condition que leurs contributions produisent des effets visibles. Les participants ont notamment évoqué l'état des routes, l'assainissement urbain et l'amélioration du climat des affaires. Pour eux, le respect du devoir fiscal doit s'accompagner d'une gestion transparente et d'une contrepartie perceptible afin de renforcer la confiance entre l'administration et les contribuables.
Actualité internationale.
Le Burundi a présenté ce lundi la candidature de Macky Sall pour succéder à Antonio Guterres à la tête de l'Organisation des Nations Unies, ONU. Un nouveau secrétaire général des Nations Unies doit être désigné le 1er janvier prochain. L'ancien président sénégalais rejoint les deux autres pour l'instant nommés. L'ancienne présidente chilienne, Michelle Bachelet, et le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'Argentin Rafael Grossi.
L'invité.
C'est Paul Kabingwa, directeur des ressources humaines au secrétariat du ministère de l'Agriculture et Sécurité alimentaire. Il s'exprime sur la mission effectuée au Maniema dans le cadre du suivi et évaluation de la campagne agricole 2025-2026. Paul Kabingwa s'entretient avec Florence Kizalonga de Pikindo.
Kabingwa Bundia, Paul, bonjour.
Bonjour Madame Florence.
Dans le cadre de la campagne agricole 2025-2026, vous avez sillonné la province du Maniema. Dites-nous, qu'est-ce que vous avez pu récolter durant votre mission ici en province?
Oui, merci beaucoup Madame. D'abord, vous rappelez que nous sommes venus dans une mission de suivi et évaluation de la campagne 2025-2026, comme vous l'avez dit, et aussi faire un état des lieux de nos centres où nous comptons produire les semences améliorées, les CAPSA. Il faut aussi ajouter à cela l'identification du personnel. Nous avons aussi fait l'état des lieux de nos bâtiments, mais comme nous pouvons dans un premier temps vous briefer, la situation n'est pas encourageante parce que les centres de CAPSA sont presque abandonnés. Les routes de desserte sont aussi telles que vous les connaissez. Nos personnels presque vieillissants, les bâtiments et aussi les conditions de travail ne sont pas comme souhaité.
À part ces constats, vous avez pu aussi sensibiliser les associations, les demandant de se réunir dans une coopérative. Ce que vous voulez transformer les associations à des coopératives agricoles. Pour quel but?
Exactement, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, son excellente Mouindo Zangi, insiste sur le fait d'organiser les paysans en coopérative. Parce que comme c'est facile à comprendre, l'union fait la force. Lorsqu'on agit individuellement, c'est compliqué. Et comme je vous disais, nous voulons, dans la stratégie du ministre d'État, il voudrait disponibiliser suffisamment de semences à tous les agriculteurs et des semences de qualité, des fertilisants et même des pesticides à tous les agriculteurs. Il voudrait disponibiliser les tracteurs, mais cette fois-là, les tracteurs ne seront pas distribués aux politiciens, mais les tracteurs seront gérés par une brigade de motorisation agricole. Cette brigade sera gérée par les services nationaux de motorisation agricole, de sorte que lorsque quelqu'un a besoin d'embraver son aire agricole, il ne lui sera plus nécessairement obligé d'avoir un tracteur à lui. Il pourra s'adresser à cette structure qui pourra lui emprunter les tracteurs. Évidemment, il faut débourser quelques frais. Et lorsque le travail est fini, on reprend les tracteurs pour les autres qui en auront besoin. Il compte aussi construire des lieux de stockage des produits parce que nous comptons produire en abondance. Nous comptons aussi créer des usines pour transformer ce que nous produisons et faciliter la commercialisation. Et là, je pense à nos amis du monde rural qui doivent nous accompagner dans l'amélioration des voies de desserte agricoles. Les minettants insistent également dans sa stratégie sur les cultures pérennes, parce que l'impression que nous avons est que l'agriculture, c'est une affaire des pauvres. Nous voulons cette fois-ci qu'il faudrait que les sols prennent la revanche sur les sous-sols. Nous avons beaucoup compté sur les minéraux, mais nous ne sommes pas allés plus loin. Nous estimons que avec l'agriculture cette fois-ci, il faudrait que l'agriculteur soit en mesure de vivre sa vie normalement. C'est comme ça qu'il insiste sur les cultures pérennes, où nous estimons que nous, ça c'est généralement des cultures pour exportation, et lorsqu'on exporte, évidemment on va en devise, et je crois que lorsque nous faisons entrer des devises, ça va profiter et pour le pays et pour l'agriculteur lui-même, résoudre cette question, non seulement de l'insuffisance alimentaire, mais surtout aussi de la pauvreté des agriculteurs.
C'est par quel mécanisme que vous allez transformer les associations en coopératives?
Bon, c'est ça le rôle de l'État, organiser la société. Nous allons leur demander de regrouper. Nous allons leur faciliter aussi l'obtention des documents pour leurs différents agréments.
Vous voulez aussi que les agriculteurs puissent migrer vers la culture pérenne, mais ils vous accusent de pouvoir chaque fois amener les semences en retard. Vous ne respectez pas les calendriers agricoles.
Oui, ils ont peut-être raison, mais parce que ça, c'est par rapport à l'exécution du budget. Il y a un problème des chaînes de dépenses. Les priorités du budget et finances ne sont pas nécessairement les priorités du ministère de l'Agriculture. Mais je profite pour informer à la population que nous allons maintenant vers la déconcentration. Cette déconcentration voudrait que nous passions au budget programme. Avec le budget programme, chaque ministère aura un compte où sera logé son argent. Donc, pour décaisser, on n'attendra plus la chaîne de dépenses où il fallait la liquidation, il fallait beaucoup de choses pour arriver à percevoir ce qu'on doit. Donc, avec la déconcentration des finances, je crois que ça va nous aider à commencer à respecter les calendriers agricoles.
Kabingwa, Bundia, Paul, merci.
C'est moi qui vous remercie, madame.
Notre invité répond aux questions de Florence Kizalunga. Il est pratiquement 19h20 à Kayuyu, dans la province du Maniema. Par ici, nous mettons un terme à ce journal, mis en onde par André Mungu. La coordination assurée par Élisée Chikota, sous la supervision de Levin Bwinga. Grâce à Mzati Masanzi, à la présentation. Merci.